Innocence, troisième volet de Mères et Filles, la série de Christine Goémé. Aujourd'hui, la mère toute puissante et le tiers impossible, avec Jean-Michel Delaconté et Marie-Madeleine Lessana.
Le premier grand roman, au sens moderne du terme, écrit par une femme en français, paraît en 1778. D'emblée, son auteur, Madame de Lafayette, en fait le roman, d'abord et avant tout, du rapport d'une mère à sa fille et d'une fille à sa mère. Il s'agit, vous l'aurez compris, de la princesse de Clèves, qui va mourir à la fin du roman parce qu'elle aura trop bien intégré les préceptes maternels. Ce que la psychanalyse appelle le surmoi, et qui est cette instance inconsciente qui exerce une impitoyable censure à l'égard de soi-même, est toujours chez les femmes d'origine maternelle. C'est ce surmoi qui est le véritable héros de ce roman. Jean-Michel Delaconté, la princesse de Clèves, fille de Madame de Chartres, arrive à la cour pour se marier, s'ensuit une histoire où le devoir, le surmoi maternel, l'emportera sur la passion. La princesse de Clèves meurt d'obéissance à sa mère.
Elle est élevée par sa mère, hors de la cour. Il y a un double ailleurs, si je puis dire, c'est un peu abstrait ce que je veux dire, mais il y a un double ailleurs. Il y a l'ailleurs de l'éducation par la mère exclusivement sans père. Et l'autre aspect, c'est l'ailleurs, c'est-à-dire que jusqu'à son adolescence, jusqu'à 16 ans à peu près, elle a 15 ans d'ailleurs en vérité, lorsqu'elle vient à la cour, la princesse de Clèves a été éduquée en dehors de la cour et de ses mœurs. Ce double ailleurs, c'est-à-dire un monde sans homme, uniquement maternel, celui de l'éducation, et par ailleurs, en dehors de la cour.
Alors, Madame de Chartres a très bien élevé sa fille, qui est un joyau.
C'est un joyau, oui. C'est un joyau, elle l'a très bien élevé, c'est-à-dire en même temps, elle l'a rendue inapte à la vie mondaine, en même temps. Et elle l'a élevé de telle manière que Madame de Clèves, la princesse de Clèves, devient également inapte à l'amour. Il y a une éducation sans homme, c'est-à-dire une éducation fondée sur le deuil de l'homme. C'est en ça, c'est aussi ça la mère, en l'occurrence. C'est le côté un peu dévorant d'ailleurs. Il n'y a que la mère. Il n'y a pas d'élément tiers. Et il y a, je crois, hein, il y a dans la perception de la princesse de Clèves, il y a un point noir, il y a une tache opaque qui est celle du deuil, celle du père qui est mort, mais qui est en même temps le mari qui est mort. Hein. C'est pas seulement la mère qui est en cause, je veux dire, pas seulement la mère comme individu. C'est aussi la mère comme celle qui a perdu son mari.
Et pour la fille... Maître sexuée, quoi.
Oui.
Et donc veuve.
C'est une veuve, exactement. Elle est veuve. Mm. Et à travers le début du livre, on sent bien dans l'éducation qu'il semble y avoir non seulement un regret de l'épouse, j'en sais rien, mais enfin en tout cas, porté par la mère, un regard extrêmement négatif sur les hommes. Et je crois, pour aller vite, je crois que l'appréciation de la place de la mère doit être prise dans ce complexe-là. Pas seulement un personnage, mais aussi un personnage pris dans un ensemble, dans un complexe de relations, aussi bien sur le plan conjugal de la mère que sur le plan de la filiation et sur le plan de la conjugalité de la part de la fille ensuite. Et puis il y a cet élément tiers étrange, Monsieur de Nemours, qui représente l'amour. Et cet amour qui surgit, il vient d'où? Et qu'est-ce qu'il représente relativement à cette éducation qui était encore une fois amputée de la figure paternelle?
Vous faisiez quand même remarquer, Jean-Michel Delaconté, que La princesse de Clèves était un roman entièrement féminin, puisque oui. Les figures d'hommes du père, naturellement, sont absentes, mais la figure du mari est à peine perceptible, celle de Monsieur de Nemours, on sait qu'il est beau et courageux, c'est tout ce qu'on sait, alors que les femmes existent concrètement, charnellement, corporellement dans ce roman, tandis que les hommes sont... sont des figures abstraites, hein, en quelque sorte.
Les hommes, ce sont des figures abstraites, ce sont, alors, on peut dire, ce sont des êtres de disparition. Je pense au chevalier de Guise qui disparaît, qui va mourir à Malte. Je pense bien évidemment au prince de Clèves lui-même. Je pense à Nemours qui va être un être de disparition, ceci qu'il va passer son temps à poursuivre un objet qui lui échappe. Et en revanche, vous avez tout à fait raison de souligner que les êtres qui existent pleinement, ce sont effectivement les femmes, à commencer bien sûr par Madame de Chartres, la mère, à commencer également par la duchesse de Valentinois, la maîtresse du roi, à commencer également, en poursuivant par Catherine de Médicis, c'est-à-dire celle qui est elle-même une mère, et qui va, en tant que mère devenir régente, puisque vous savez, la dernière partie du roman se passe sous le règne de François II. Et puis, une autre figure de l'homme évanoui, enfin s'évanouissant, disparaissant, c'est naturellement le roi Henri II qui meurt.
Oui.
La mort du roi est tout à fait essentielle, à mon avis, parce que c'est un roman psychologique, c'est un roman sur l'amour, mais c'est aussi, et ça je trouve que c'est assez peu souligné dans les critiques généralement, c'est un roman également politique.
Vous faisiez remarquer, Jean-Michel Lacomté, qu'effectivement, il y avait la présence très, évidemment, toute première de cette mère de fille, de cette mère veuve, et qui a, au fond, élevé sa fille en dehors du monde, qui l'a protégée du monde, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire, mais également, d'une certaine manière, grâce à cette mère, cette fille est aussi beaucoup plus libre que les autres filles, beaucoup mieux éduquée que les autres femmes, beaucoup plus cultivée que toutes celles qu'on rencontre, parce que précisément la mère s'est attachée à l'éducation, que la fille a eu accès au savoir, et donc on a là une figure de fille exceptionnellement libre et exceptionnellement savante, et en même temps exceptionnellement retranchée du monde et du reste des autres.
Oui.
Alors elle est à la fois, de par sa mère, plus libre et à la fois moins libre que toutes les autres femmes.
Et effectivement, la construction d'un paradoxe, c'est que il y a la liberté, comme vous le dites, la liberté de savoir et de la connaissance de soi, et en même temps, des risques encourus lorsqu'on s'abandonne aux patients. Donc il y a d'un côté une armature morale très forte et exceptionnelle chez la jeune fille, chez la princesse, enfin chez Mademoiselle de Chartres de mort. Et puis en même temps, cette fermeté, cette construction intellectuelle et morale se révèle aussi, hein, ça c'est très difficile à appréhender ou à apprécier, c'est que en même temps ça la rend très, très friable. Hein. Le monde est très souple, c'est un monde de souplesse, la cour, incarné par Nemours lorsqu'il saute au-dessus d'une chaise hein, lors du bal,
oui.
C'est la souplesse. Et si l'armature morale est trop forte, ce qui est le cas, eh bien il y a une friabilité qui s'instaure. Et alors, dans ce paradoxe, c'est une forme de paradoxe entre, d'une part, cette armature morale qui renforce, et puis en même temps, cette faiblesse sur quoi cette armature débouche. Et tout le roman est pris dans cette contradiction entre la beauté de la princesse, qui est une beauté en même temps, c'est longs cheveux, blonds, etc., ce qui relève de la souplesse également, hein, comme pour Nemours. Et puis en même temps, cette forme de rigidité morale, qui est en même temps une force et en même temps une très grande faiblesse. Alors, je disais à l'instant que c'est un roman politique. Je crois en effet que cette surprésence des mères, avec en l'occurrence des mères et des veuves, pas seulement des mères, hein, des veuves, Madame de Valentinois aussi est veuve, comme Madame de Chartres, cette surprésence des mères et en particulier des veuves, des veuves avec filles, si je puis dire, hein, pose la question, encore une fois, de la présence d'un élément, relativement à ce qu'on vient de dire, la contradiction, le paradoxe, d'un élément de stabilisation qui doit être représenté par la présence de l'homme comme tiers équilibrant. Et l'aspect psychologique et l'aspect politique se rejoignent en ceci, qu'il y a absence de ce tiers dans la vie privée et absence de ce tiers dans la vie politique. Alors, à mon sens, la princesse de Clèves, c'est pas la défaite de la mère, c'est la défaite de l'absence du tiers. La mère elle-même est dans son rôle, et vous l'avez dit, le problème de Madame de Clèves, de la princesse de Clèves, elle a été parfaitement éduquée par sa mère. Le problème, c'est qu'il a manqué quelque chose. Et ce qui me semble tout à fait important, c'est vers la fin du roman, lorsque Madame de Clèves explique à Nemours pourquoi elle le quitte, elle veut le quitter, elle ne veut pas vivre le bonheur, et elle ne trouve pas de raison rationnelle. Et Nemours lui dit, mais vous confondez, vous avez un fantôme de devoir. Et elle dit oui, en effet, un fantôme de devoir. La question qu'on se pose, fantôme de devoir, c'est-à-dire de fidélité au mari. Mais on sent bien qu'il y a un autre fantôme derrière. C'est bien évidemment la mère. En n'oublions pas quelque chose, c'est que le prince de Clèves a été choisi par la mère. C'est elle qui l'a désigné. Et même si on voit un peu plus dans le détail le roman, on s'aperçoit qu'il a été choisi le prince de Clèves, c'est-à-dire le mari non aimé. Hein, à rebours même des préceptes de Madame de Chartres, d'ailleurs, en disant il faut aimer son mari. Hein. Eh bien, ce mari était choisi par la mère, d'une part, Madame de Chartres, et d'autre part, à cause des intrigues, a été choisi aussi indirectement comme au billard par Ricochet. Bachet, il était choisi par la duchesse de Valentinois, c'est-à-dire la grande veuve elle-même, la maîtresse du roi. Et donc il y a un double choix par les deux femmes majeures du texte, et c'est un choix qui se révèle bien sûr désastreux. Et puis en même temps, c'est un choix qui se révèle désastreux, mais il y a une retrouvaille, des retrouvailles avec la fidélité, puisque malgré tout, l'objet de la fidélité chez la princesse de Clèves, il est triple. Fidélité à elle-même, sa propre morale, fidélité au mari mort, le prince de Clèves, et fidélité à la mère. Le problème de l'excès de fidélité, c'est qu'il est sans doute mortel. Il ne faut pas être trop fidèle. C'est toute la difficulté de que faire de ça, de sa fidélité, que faire de sa piété. Lorsqu'il nous submerge et nous dévore, on va vers la mort.
Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde. Et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et l'avait laissée sous la conduite de madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille. Mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté. Elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements. Et elle lui faisait voir d'un autre côté quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme.
Marie-Madeleine Lessana, vous avez repris cette hypothèse de Lacan pour la conceptualiser et en démontrer le mécanisme en analysant des cas concrets et notamment l'effroyable malheur de Camille Claudel, englouti par la haine que sa mère lui portait. Dans ce cas, outre une vraie malchance, aucun tiers, que ce soit son père ou son amant Rodin, n'a pu intervenir sur un terrain aussi miné. C'est dans son amour passionné avec Rodin que s'est jouée une entrée dans le ravage, et pas avec sa mère. C'est donc à travers cette rencontre passionnée, amoureuse avec Rodin, qu'elle a eu affaire à l'autre femme, qui était donc la concubine de Rodin, la mère de son fils, Rose Beret, et c'est dans ce cadre-là qu'elle a joué sa question de femme. Donc, peut-être qu'il faut un petit peu d'histoire. À l'âge de 18 ans, le père Claudel, le père de Camille et de Paul Claudel, a décidé, voyant sa fille Camille absolument déjà passionnée pour la sculpture et déjà sculptrice, elle avait 18 ans, il a proposé un transport de toute la famille à Paris, c'est-à-dire de sa femme et de ses enfants, pour que Camille puisse étudier la sculpture. Enfin, c'était l'argument. Ça veut dire aussi que le père voulait soutenir sa fille dans son art, et par ailleurs, il n'est pas exclu qu'il voulait aussi mettre un peu à distance sa femme, avec laquelle il ne s'entendait pas très bien. Donc, Camille a été prise en grippe par sa mère d'emblée, puisqu'en quelque sorte, le père de famille a déporté la famille de l'endroit où la famille était pour les envoyer à Paris au nom du fait qu'il était bon que Camille puisse développer son art. En tout cas, Paul dira que ce départ était un cataclysme, ce départ pour Paris. tiré profit, puisque donc on sait qu'il a fait très bonnes études et qu'il est devenu un écrivain. Enfin bon, on va pas développer le détail de cette famille pour laquelle on a des quantités de biographies, mais très vite elle a été reconnue comme talentueuse et il a été perçu dans son art une proximité avec l'œuvre de Rodin, qui était bien entendu son aîné et déjà un sculpteur renommé, que Camille ne connaissait pas. C'est-à-dire, je crois que c'est un directeur des Beaux-Arts, voyant l'œuvre de naissant de la jeune Camille, a dit « on dirait du Rodin » ou « on dirait une élève de Rodin », alors même qu'elle n'avait jamais entendu ce nom. C'est-à-dire, déjà, elle était épinglée comme élève de Rodin, alors qu'elle créait par elle-même sa sculpture dans son inspiration de toute jeune fille. Enfin, très vite, elle est devenue en effet l'élève de Rodin. Elle a pris des cours avec Rodin, elle est devenue l'élève de Rodin, et elle est devenue la maîtresse de Rodin, et s'est engagée entre eux un rapport d'émulation artistique absolument fabuleux, et d'échanges extraordinaires. Elle a beaucoup inspiré Rodin, elle a beaucoup travaillé avec lui et pour lui. Et d'ailleurs, il est dit dans un certain nombre de commentateurs que Camille s'est engagée sans réserve dans cette rapport d'élèves, alors que d'autres gardaient à distance parce qu'on savait à quel point Rodin avait un impact, était prédateur de l'invention de ses élèves. Donc,
comme beaucoup de maîtres d'ailleurs.
Comme beaucoup de maîtres. Donc là, il s'est joué une aventure tout à fait passionnante qui a donné toutes sortes d'œuvres qu'il faut aller voir au musée Rodin, où on voit la proximité, même voir la gémellité entre des œuvres de Camille et de Rodin. Donc c'était une relation clandestine d'un côté par rapport à sa mère, sa famille, Camille cachait cette relation.
À cette époque, c'était pas évident.
Oui, c'était pas évident du tout, mais donc elle vivait avec sa mère, son frère et sa sœur, et elle avait cette relation clandestine, et de l'autre côté, la relation était clandestine par rapport à la concubine, la femme, disons, de Rodin. Mais on sait, on l'a su de façon posthume, que c'est un avortement que Camille a dû faire, qui a été le tournant, un des tournants du drame de son rapport à Rodin. Mais parallèlement à cette histoire qui est évidemment celle de l'histoire de la féminité de Camille Claudel, qui en quelque sorte n'a pas eu la possibilité, vu le ravage qu'elle a vécu avec Rodin, et qui n'a pas été menée à son terme, Camille, en quelque sorte, n'a pas eu la chance d'ouvrir la possibilité de mettre au monde des enfants qu'elle puisse être reconnue. Mm-hmm. Alors, ce que je vais aller plus loin, puisque c'est à travers son œuvre que j'analyse la tentative échouée qu'elle a faite d'accomplir son ravage. Et il se trouve que le ravage était dans la scène avec Rodin. Rodin étant en quelque sorte le corps physique avec lequel elle jouait sa question amour-haine du ravage qu'elle ne pouvait pas jouer avec sa mère. Alors pourquoi ? Parce que sa mère avait épinglé sur Camille, on pourrait dire, la part de désir que elle-même avait rejeté dans son puritanisme radical, c'est-à-dire que la part qu'elle-même ne pouvait pas soutenir, elle l'avait épinglée sur sa fille Camille. Camille, qui est porteuse de désir, de féminité et d'art. La dangerosité du désir était épinglée sur Camille, comme on pourrait dire, elle était devenue le bouc émissaire de sa mère qui, en quelque sorte, se clivait elle-même d'une part qu'elle ne voulait pas reconnaître en elle. Et Camille en a été de façon toute sa vie, en quelque sorte, exilée de la reconnaissance familiale par le fait que sa mère, contre le père, et on voit bien à ce titre que même le père Claudel, qui en quelque sorte a donné tous les signes qu'il voulait être un père, qui voulait protéger sa fille, qui voulait la reconnaître dans son désir, si la mère, par en dessous, n'ouvrait pas cette chance,
rien n'était possible.
Rien en quelque sorte. Le père était impuissant, on pourrait dire, à fournir à sa fille les traits de reconnaissance de son désir d'enfant, d'être la femme pour un homme, etc. Son désir d'épouse, on pourrait dire, tout ça ça, elle ne l'a pas eu du fait que, en dessous des gestes du père, il y avait l'exil. L'exil, la déportation, on pourrait presque dire, dans laquelle sa mère a inscrit sa fille. Il faut prendre une autre algèbre pour parler de mère-fille que l'algèbre du complexe d'Œdipe. C'est avec Rodin et à travers le mouvement de l'œuvre que s'est problématisée cette affaire de ravage et de féminité pour Camille, et que ça s'est joué principalement autour d'une œuvre qui porte le titre « L'âge mûr ». Et cette œuvre met en scène, dans la sculpture, trois personnages, un homme entre deux femmes, entre une jeune, belle, implorante, amoureuse, et une vieille, rageuse, possessrice, qui, possessive, mais voulant prendre,
captatrice,
enfin, qui veut posséder et qui jette un regard de haine envers la jeune aimante. Et l'homme est pantelant, c'est une sorte de colosse qui tient pas sur ses pieds, qui est pantelant et qui a l'air d'osciller entre l'amour, la jeune, et se laisser embarquer par la vieille, qui peut incarner aussi la mort. Il y a deux versions de cette œuvre, et il y a une histoire des dessous, on peut dire, de cette œuvre, qui sont les suivants. Bon, Rodin a toujours soutenu Camille pour ce qui était de sa reconnaissance et des commandes faites de ses œuvres par le service public, par l'État, par les Beaux-Arts. Et on peut dire que pour ce qui était de cette œuvre, on sait par des notes de l'administration que Rodin avait demandé aux Beaux-Arts de commander cette œuvre pour la traduire, l'acheter et la traduire en bronze, c'est-à-dire qu'en quelque sorte qu'elle soit publiée. Donc Camille a fait une première esquisse qui est celle que je dis, c'est-à-dire l'homme est pantelant, hésitant, il est à la fois colossal et en même temps fragile, puisqu'il ne tient pas tellement sur ses pieds, voilà. Et dans le temps où l'administration est très lente pour donner les accords et accomplir les commandes qui sont annoncées, dans ce temps-là, il y a eu un délai de 2 ans où Camille, donc, était susceptible de fournir le plâtre définitif. L'œuvre a bougé, l'œuvre était en mouvement, c'est-à-dire que l'homme qui était hésitant dans la première version avait opté dans la deuxième version et se montrait embarqué, par la vieille dans un mouvement de marche, on pourrait dire de marche funèbre, de marche funeste. Cette deuxième version a été donc présentée au salon de 1899 à Paris, et très très peu de temps après, la commande de la traduction du plâtre, le plâtre étant l'esquisse, en bronze, la bronze étant la sculpture définitive, a été annulée sans aucune explication. Alors que toute la commande était prête, il ne restait plus qu'à signer et dater pour mettre en œuvre, en quelque sorte, la fabrication en bronze. Dans le mouvement de l'œuvre, elle traduit dans la sculpture le mouvement d'interprétation de sa question, c'est-à-dire l'homme qu'elle aime a opté pour la vieille plutôt que pour la mort, plutôt que pour le désir, l'amour, la jeunesse. Une publication est le passage de la sphère privée, on peut dire, à l'œuvre qui sublime les éléments privés pour aboutir à quelque chose qui est du domaine artistique et qui donc n'est plus du domaine privé et du domaine de l'œuvre d'art. Quelque chose qui donc n'est plus dans le récit personnel. Et on peut penser que la décommande des pouvoirs publics quant à la publication de cette œuvre, Rodin n'en est pas absent, et que
il a peut-être, lui et son entourage, vu dans cette œuvre une allégorie de sa vie intime. Il n'en a pas supporté l'interprétation qu'il a reçue comme un coup. Et en effet, c'était un coup, c'était le coup porté du ravage, c'est-à-dire, en quelque sorte, mais c'était dans l'œuf, c'était donc pas un coup de haine, c'était pas un attentat au corps ni de Rodin, ni de Rose Beret, ni de Madame Claudel. C'était une œuvre d'art qui, dans la pierre, incarnait quelque chose, mais qui a été reçue comme un coup de haine. Donc c'est revenu à Camille comme si elle avait eu un geste de haine.
Oui, maman.
Et comme, en quelque sorte, ça n'a pas été porté jusqu'à son terme, métamorphosé par la dimension artistique, ça lui est revenu de façon persécutive. C'est-à-dire comme si elle a eu sa propre haine sur elle-même, ne pouvant pas la porter en acte, elle était persécutée, elle était haïe. Et à partir de l'échec de cette œuvre, Rodin est devenu son persécuteur. Et elle est devenue folle. Elle est rentrée dans une folie avérée à partir du tournant de l'échec de cette œuvre. En tout cas, c'est l'analyse que je fais. Camille, à partir de là, ça s'est retourné contre elle-même. Elle a détruit ses propres œuvres. Elle s'est isolée. Elle était dans la persécution. Elle était vraiment dans la folie de la persécution. Rodin étant son persécuteur attitré. Elle n'a jamais pu épingler sa mère comme persécutrice. Elle n'a donc jamais pu, en quelque sorte, la désigner. Elle lui demandait toujours de l'amour. Et c'est comme ça. Et bon, elle a été internée. Le lendemain de la mort de son père, elle a été internée par sa mère et par son frère. Donc, en quelque sorte, son père vivant, elle avait encore un reste de protection. Son père mort, plus rien ne la protégeait. Donc, elle a été internée. Au bout de quelques années, les médecins étaient prêts à la faire sortir et parce qu'elle ne délirait plus et qu'elle aurait pu aussi reprendre une vie. Sa mère l'a maintenue enfermée pour jusqu'à la fin de ses jours. Et qu'elle, en refusant de l'envoyer, c'était effectivement une mère qui persécute sa fille.
Réellement.
Elle a déliré sur un fond réel. Qu'elle n'a pas pu attaquer. Elle n'a pas pu désigner sa mère. Elle était toujours implorante. Camille est l'implorante. Est une implorante. Et je dis, d'ailleurs, je commence mon article en montrant qu'elle est implorante envers qui ? Envers sa mère. Et que tout son art était un art dressé pour tenter de toucher cette mère. De la toucher dans les deux sens du terme, c'est-à-dire au sens agressif et tendre. Mais elle n'a pas réussi. Elle n'a été que implorante. Elle n'a même pas réussi à la toucher d'aucune façon.
Attends.
Les chemins de la connaissance. Aujourd'hui, la mère toute-puissante et le tiers impossible. Avec Jean-Michel Delaconté, le professeur, et Marie-Madeleine Lessana, psychanalyste. Texte lu par Anne Kress. Groupe de réalisation, Xavier Carrère, Jean-Marie Charon, Yann Lambré, Michel Mestre, Franck Lilin, Christine Goémy.